France Culture.
Et tout de suite, on fait le point sur l'information. C'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Après des semaines de déclarations agressives, Donald Trump a fini hier par désamorcer le conflit sur le Groenland qu'il avait lui-même provoqué en annonçant le cadre d'un futur accord. On tâchera d'en comprendre les contours. À suivre également une bonne nouvelle pour la planète où quand pour la première fois l'éolien et le solaire prennent le pas sur les énergies fossiles en Europe. L'actualité en France sont toujours les interrogations autour du budget, en particulier le fiasco sidérant de la taxe sur les hauts revenus. On parlera du changement de modèle observé dans le secteur bancaire, une réorganisation parfois au détriment de ses salariés. Enfin, avec notre invité, on parlera du rapport des Français à l'art. Qu'attendent-ils d'une politique culturelle? C'est sur cette question que repose le résultat d'un sondage paru ce matin. Ceux qui attendaient une énième bravade de Donald Trump hier à la tribune du Forum économique mondial de Davos auront peut-être été déçus, même si en l'occurrence, fidèle à sa caricature, le président américain se sera à nouveau offert en spectacle, soufflant comme à son habitude le chaud et le froid. Il ne fera pas usage de la force au Groenland, mais continue malgré tout de revendiquer avec véhémence le territoire autonome. Une annonce accueillie d'ailleurs avec un certain scepticisme sur l'île où de nombreux habitants se disent échaudés par les volte-face à répétition du locataire de la Maison Blanche. Quoi qu'il en soit, un projet d'accord serait donc désormais sur la table pour lequel le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, aurait, dit-on, joué un rôle crucial et dans la foulée, Donald Trump a également annoncé la suspension de ses menaces d'imposer des droits de douane supplémentaires aux pays européens qui s'étaient rangés derrière le Danemark. Pour le reste, le plus grand flou demeure. Que sait-on exactement de ce plan, Éric Bigala?
Pour le moment, pas grand-chose à vrai dire. Hier soir, la presse américaine suggérait, citant des sources anonymes de l'administration Trump, que le Danemark pourrait céder sa souveraineté sur quelques territoires groenlandais où les Américains seraient libres d'installer des bases militaires. Ce matin, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, évoquait tout autre chose, une sécurisation par les pays de l'OTAN de la zone arctique occidentale, de manière à ce que les Chinois ou les Russes n'y pénètrent pas. Autre objectif de ces pourparlers avec le président américain hier, a précisé Mark Rutte, s'assurer que la Russie et la Chine ne puissent pas avoir accès aux ressources groenlandaises. De sources danoises et britanniques, lesquelles se sont entretenues avec le secrétaire général de l'OTAN, on précise ce matin qu'une mission permanente de l'OTAN, baptisée Arctic Sentry, a été proposée pour patrouiller la zone en permanence, en mer, dans les airs et sur terre. De semblables missions de l'OTAN en Baltique ou sur le flanc est de l'OTAN, baptisées Baltic Sentry et Eastern Sentry, ont été montées en quelques jours cette année avec une participation américaine très limitée. Quant à interdire l'accès aux Chinois ou aux Russes aux ressources groenlandaises, cela passera sans doute par la dénonciation d'une concession minière au Groenland accordée à un consortium australien nanti d'une participation chinoise.
Cela signifie qu'il ne s'agit pas de céder tout ou partie du territoire groenlandais aux États-Unis ?
Non, la question de la souveraineté sur l'île ou sur certaines de ses parties, comme la base américaine de Pitufik sur la côte nord-ouest du Groenland, n'a pas été abordée. C'est ce qu'a indiqué ce matin la première ministre danoise, Mette Frederiksen, qui s'est entretenue avec le secrétaire général de l'OTAN avant et après son entrevue avec Donald Trump. La chef du gouvernement danois, dans le même communiqué, indique par ailleurs, je la cite, que le Royaume du Danemark souhaite poursuivre un dialogue constructif avec ses alliés sur les moyens de renforcer la sécurité dans l'Arctique, y compris le Golden Dome américain, à condition que cela se fasse dans le respect de notre intégrité territoriale. Le projet de Golden Dome, cher à Donald Trump, prévoit de placer sous une sorte de bulle de protection la totalité du territoire des États-Unis en déployant sur Terre et dans l'espace des armes susceptibles d'intercepter les missiles russes ou chinois. C'est sur le territoire groenlandais que ces radars de veille et autres batteries d'intercepteurs américains pourraient être déployés.
Merci Eric Bigala. Alors dans ce contexte international, disons agité, on sait combien la dépendance énergétique et plus particulièrement les risques de chantage exercés par les pays exportateurs de combustibles fossiles a vite fait d'alimenter cette instabilité chronique à l'échelle de la planète, confère les liaisons dangereuses entre le gaz russe et l'Europe, mais aussi les injonctions faites au vieux continent par les États-Unis de s'approvisionner chez eux en gaz et en pétrole. D'où cette bonne nouvelle rapportée ce matin pour la première fois, Véronique Rebérotte. L'Union européenne, en dépit à la fois des priorités, des particularismes de ses États membres, a produit plus d'électricité solaire ou éolienne en 2025 que celle d'origine fossile.
L'an passé, solaire et éolien ont généré 30% de la production d'électricité dans l'Union européenne, alors que dans le même temps, les centrales à énergie fossile, pétrole, gaz et charbon, ont vu leur production stagner à 29%. Dans le détail, cette croissance des renouvelables est surtout portée par l'explosion d'électricité d'origine solaire. L'installation de panneaux solaires, dont les prix ne cessent de baisser, s'est déployée de façon spectaculaire, notamment à Chypre, en Hongrie ou aux Pays-Bas, faisant plus que doubler la production ces 5 dernières années. En 2025, la production a aussi été favorisée par des conditions climatiques très favorables en début d'année, notamment dans le nord de l'Europe. Parallèlement et de façon désormais irréversible, l'énergie fossile la plus nocive pour le climat continue de décliner. La production de charbon a baissé de près de 10% en un an. 19 pays européens ont quasiment éliminé le charbon de leur mix énergétique. L'Allemagne et la Pologne sont à elles seules à l'origine des trois quarts de la production d'électricité à partir de charbon au sein de l'Union européenne. En revanche, les 27 continuent de dépendre du gaz, plus 8% de consommation en 2025, notamment aux heures de pointe, de fortes demandes, avec une solution, prévoir des investissements dans des batteries pour stocker l'énergie renouvelable produite en journée et la délivrer le soir.
Midi et 36 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Comment concilier justice fiscale, efficacité économique et équité démocratique, le tout dans un contexte marqué à la fois par le mauvais état des finances publiques, de nouvelles contraintes budgétaires et de nouveaux besoins d'investissement. Voilà des mois, sinon des années même, que la question alimente le débat politique, et c'est ainsi notamment qu'en 2024, un nouvel impôt avait été imaginé par le gouvernement de Michel Barnier, censé répondre aux pressions de la gauche pour taxer davantage les plus riches, son nom, la contribution différentielle sur les hauts revenus. Une taxe qui sera finalement adoptée dans le budget 2025, dont le rendement espéré à l'époque était de 1,2 milliard d'euros, et que Sébastien Lecornu envisage à présent de reconduire à son tour dans son budget 2026. Sauf que le Premier ministre a revu ses ambitions à la baisse. Jeanne Serrin, bonjour.
Bonjour.
Le gouvernement anticipe un rendement de cette taxe à hauteur de 650 millions d'euros. C'est 1 milliard de moins que prévu, Jeanne.
Oui, dans sa copie initiale, Sébastien Lecornu espérait 1 milliard 650 000 euros de recettes supplémentaires grâce à cette taxe. Et s'il a baissé ses ambitions, c'est que les rendements espérés en 2025 ont été bien moins importants que prévu. D'après une première estimation de Bercy, citée par le journal Le Monde, ce dispositif n'a permis de dégager que 400 millions d'euros l'année dernière, soit 5 fois moins que la somme anticipée. Alors, comment l'expliquer ? La nouveauté, d'abord, le système de collecte n'est pas encore bien maîtrisé par les contribuables, mais dans l'entourage de la ministre des Comptes publics, on soupçonne surtout des comportements d'optimisation. Et c'est ce qui était à prévoir, estime Sylvain Duchesne, économiste à l'Institut des politiques publiques.
C'est plus aux revenus, ont principalement des revenus du capital et ont souvent un pouvoir de décision sur le moment où ces revenus du capital vont leur être versés. Donc là, pour les revenus 2025, les foyers fiscaux pouvaient s'attendre à ce que cette contribution différentielle ne soit présente qu'une seule année, et donc essayer de repousser la réalisation de certaines plus-values, par exemple, ou bien le versement de dividendes.
Repousser leur déclaration ou l'anticiper. La censure du gouvernement de Michel Barnier a aussi laissé du temps à certains pour déclarer des revenus avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle taxe. Des mécanismes d'optimisation prévisibles par Bercy, mais avec une marge d'erreur, selon Sylvain Duchesne.
On savait qu'il allait y en avoir. La difficulté, c'était plutôt de les quantifier. Quel point est-ce qu'ils allaient pouvoir s'adapter sur une année ? Le problème, c'est qu'il y a tellement peu de mesures qui visent spécifiquement ces très hauts revenus que c'était très compliqué à anticiper. Après, ça concerne quand même très peu de foyers fiscaux.
16 000 ménages en tout sur 41 millions de foyers fiscaux en France. Il ne faut donc pas s'attendre, conclut l'économiste, à des montants faramineux.
Merci Jeanne Serrin. On ne peut pas dire que le secteur bancaire soit généralement le plus secoué par la colère sociale, et pourtant plusieurs syndicats au sein de la Fédération Nationale du Crédit Agricole appellent ce jeudi à un débrayage inédit, d'autant plus exceptionnel dans une banque mutualiste. Ils regrettent des augmentations de salaire insuffisantes l'an dernier et surtout la mise en place d'un plan de transformation menaçant l'emploi. Parallèlement, la Société Générale devrait-elle présenter aujourd'hui un projet de réorganisation qui prévoit la suppression de 1800 postes d'ici fin 2027. Enfin, si on ajoute à cela l'annonce mardi dernier par le LCL d'une nouvelle organisation pour réduire ses coûts, on se dit que c'est le secteur tout entier, Annabelle Grelier, qui est à la recherche désormais d'un nouveau modèle.
Au Crédit Agricole, quasiment toutes les caisses régionales suivent aujourd'hui le mouvement de grève lancé par 5 syndicats.
une première, selon eux, mais il faut dire que les inquiétudes sont nombreuses. À la Société Générale, ce sont 1800 départs naturels qui ne seront pas remplacés. Au Crédit Agricole, on craint également des licenciements à travers un plan dit d'efficacité qui doit se traduire par la mutualisation de certains métiers et la réduction des doublons dans les agences régionales. La montée en puissance de l'intelligence artificielle inquiète. Les sites de back-office gérant les tâches administratives devraient être les premiers à se dépeupler. Le Crédit Agricole, par exemple, anticipe que 20% de ces tâches seront réalisées par des IA d'ici à 2028. Même chose à BNP Paribas. Le nombre d'agences se réduit. Près de 5000 ont fermé depuis 2010, de moins en moins fréquentées par leurs clients qui sont devenus adeptes des applis bancaires. Le secteur bancaire est en pleine mutation avec la digitalisation et les agents se disent épuisés par la charge de travail. D'autant que les salaires ne suivent pas, estiment les syndicats. Au Crédit Agricole, les dernières négociations salariales ont laissé un goût amer. Ils ont obtenu une hausse de moins de 0,5% alors qu'ils demandaient 1,4%. Un manque de respect qui a mis le feu aux poudres au sein du réseau. Le Crédit Agricole ne fait pourtant pas face à des problèmes de rentabilité. Le bénéfice net du groupe des caisses régionales approche les 3,2 milliards d'euros pour les trois premiers trimestres de 2025.
Quand le géant français du jeu vidéo a décidément du mal à sortir victorieux de la crise.
Après qu'Ubisoft a annoncé hier une perte opérationnelle estimée à 1 milliard d'euros pour son exercice 2025-2026, le titre s'est écroulé de plus de 34% ce matin dans les premiers échanges de la Bourse de Paris. Voilà plusieurs années déjà en réalité que le groupe est empêtré dans des difficultés financières. Conséquence, le développement de 7 de ces jeux a été repoussé, surtout 6 autres sont purement et simplement annulés, dont la nouvelle version de l'un de ces mastodontes, Prince of Persia, malgré les rumeurs d'une sortie imminente. Et puis surtout, le groupe annonce une transformation inédite de son organisation avec l'objectif d'être plus compétitif, mais au prix d'une nouvelle cure d'austérité. Je vous propose d'écouter le journaliste spécialiste des jeux vidéo, Mohamed Aigouin, pour qui cette restructuration fait figure de dernière chance pour le groupe qui a déjà perdu quelque 3000 employés depuis 2023, il le dit à Marion Ferrer.
L'excuse derrière tout ça et la justification qui est donnée, c'est un Ubisoft qui rehausse apparemment ses standards qualité. Il semblerait que Prince of Persia n'ait pas atteint l'objectif qualité qu'Ubisoft met en place, en tout cas pour sa nouvelle vision des objectifs qualité. Et à titre personnel, en tout cas, je le vois comme une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'Ubisoft prend conscience qu'il faut plus travailler ses projets. Ça veut donc dire qu'il y aura des éléments qui passeront un peu à la trappe, notamment bah, forcément des licenciements qui seront annoncés le 12 février prochain. Ça a été dit hein, vraiment par Ubisoft. Donc voilà, il y a vraiment une volonté de se restructurer, de faire peut-être moins, mais de faire mieux et d'avoir beaucoup plus d'organisation et d'être beaucoup plus agile dans un secteur du jeu vidéo blockbuster qui est ultra concurrentiel. C'est un peu la dernière chance, effectivement. C'est pour ça que je pense qu'elle est aussi perturbante, déroutante en réalité, parce que c'est littéralement un changement de paradigme profond. Effectivement, ça s'enlise depuis maintenant quelques années. Donc c'est vraiment le grand coup de pied dans la fourmilière qui, en tout cas, c'est ce qu'espèrent les cadres d'Ubisoft, qui permettra de revenir en tant qu'acteur fort du jeu vidéo, puisqu'on parle quand même d'Ubisoft, qui est littéralement l'une des plus grosses entités de l'industrie vidéoludique. Donc oui, bien sûr, ça a pour objectif de rebattre les cartes totalement. Et si jamais ça porte ses fruits, ce sera vraiment bon pour eux, ce sera bon aussi pour les joueurs, bien sûr, qui auront des jeux de meilleure qualité. On verra maintenant si l'impact sera vraiment bénéfique ou pas dans les années à venir.
Mohamed Aigouin, donc journaliste spécialiste des jeux vidéo, il répondait à Marion Ferrer. Depuis ce matin, 9h jusqu'à ce soir, minuit, les députés, les Républicains profitent de leur niche, comprenez la journée qu'il aurait réservée à l'Assemblée pour présenter leurs priorités, la reconnaissance d'une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre refusant usage de leur arme à feu, l'interdiction dans l'espace public de toute tenue destinée à dissimuler la chevelure des jeunes filles mineures, l'inscription des frères musulmans sur la liste européenne des organisations terroristes ou bien encore l'interdiction du maintien en hébergement d'urgence aux personnes sans papier.
Et sans transition, si on parlait à présent, accès à la culture.
Oui, émerveillement devant le beau, liberté de création, pratique artistique. Un sondage exclusif de Beaux-Arts Magazine mené avec l'Institut de sondage Ipsos BVA sur le rapport que la population entretient avec l'art vient tout juste d'être publié et il s'avère en réalité plutôt riche en surprises, de quoi nous conduire à réinterroger notamment la notion de politique culturelle. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Victorien Bornéa, conseiller politique en collectivité territoriale et auteur de L'exclusion culturelle, manifeste pour une riposte populaire qui sortira demain aux éditions du Faubourg. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Peut-être juste avant de commencer, je vous ai donc présenté comme vous le faites vous-même au dos de votre livre, c'est-à-dire sans préciser que vous travaillez actuellement pour le cabinet du Conseil à la culture, du conseiller à la culture de la mairie de Paris. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de ne pas le mentionner ?
Oh, tout simplement parce que je parle à titre personnel dans ce livre, je parle néanmoins en tant que professionnel de la culture, ce qui m'a permis d'être dans une tour d'observation, on va dire, privilégiée pour assister, par exemple, à des jurys de recrutement de directeurs d'institutions, de siéger dans des commissions d'attribution de subventions à des artistes, de comprendre les logiques de l'administration culturelle. Je parle aussi d'un point de vue personnel en tant que transfuge de classe, donc ayant grandi dans les classes populaires, mon contact avec la culture légitime était à l'époque inexistant, ce qui m'a donné un bénéfice critique, disons, pour comprendre les barrières à l'entrée de la culture légitime.
Alors, dans les médias, en général, et cette antenne en particulier, on a souvent évoqué ces derniers mois l'effet des coupes de subventions attribuées à la culture, des difficultés financières auxquelles elle confronte un certain nombre d'institutions artistiques sur tout le territoire. Est-ce que la crise que traverse actuellement le monde de la culture est aussi une crise de la notion même de politique culturelle ?
Oui, je pense que c'est effectivement une question très importante. Le cap culturel de la France reste aujourd'hui celui de la démocratisation culturelle, c'est-à-dire comment faire en sorte de combler les inégalités culturelles d'accès à la culture légitime dans ses formes les plus légitimes, héritées en général de la culture lettrée et de la culture savante. Le problème aujourd'hui, c'est qu'effectivement les répertoires savants et populaires ne sont plus aussi fixes qu'à l'époque. Bourdieu parlait à l'époque de culture de classe qui n'existe plus vraiment aujourd'hui, puisque les classes cultivées sont totalement enclines à consommer des produits culturels de l'industrie du divertissement. Néanmoins, la France maintient ce cap, et puis la distinction sociale qui se faisait à l'époque dans sa proximité avec la culture légitime, aller au théâtre, aller à l'opéra, aller au musée, aujourd'hui n'est plus du tout la même. Le capital culturel est plutôt composé d'un éclectisme, un éclectisme des goûts, d'une capacité à côtoyer de différents répertoires culturels. Donc on voit bien comment le projet artistique et culturel français commence à entrer un tout petit peu en contradiction avec les aspirations et la culture véritable des Français.
Si l'on se fie au sondage publié ce matin, 28% des Françaises interrogées ne donnent pas leur confiance à aucun parti, d'ailleurs, pour mener une politique culturelle. Comment est-ce que vous interprétez ce chiffre ? Est-ce qu'il faut y voir une forme de défiance, on va dire, générale à l'égard de la parole politique ? Ou bien est-ce que c'est le signe que tous les partis auraient effectivement déserté ce champ de la politique culturelle ?
Oui, effectivement, je pense qu'il y a une partie de défiance, mais il est vrai aussi que les partis politiques n'investissent plus suffisamment la question culturelle. La culture est devenue un champ de bataille idéologique, mais plus vraiment un sujet de politique publique. Il faut voir la manière dont le RN s'empare, par exemple, de la question culturelle, c'est uniquement sous un prisme identitaire. Par exemple, ils exaltent le folklore, les cultures locales, pour mieux défendre finalement leur vision de la France, de la civilisation occidentale et des cultures et des valeurs chrétiennes à défendre. Mais pour eux, ce n'est pas un sujet de politique publique. D'ailleurs, dans le programme de Marine Le Pen en 2022, il n'y avait même pas de volet sur la culture. Il y avait en revanche un volet sur le patrimoine.
Deux figures tutélaires restent aujourd'hui omniprésentes dans l'action politique en matière culturelle. André Malraux, donc, pour la création du ministère de la Culture en 1959, et puis Jack Lang pour avoir infléchi sa ligne directrice et lui donner la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. Parmi les limites contemporaines auxquelles se confronte ce modèle historique, donc, vous pointez, vous l'avez évoqué brièvement tout à l'heure d'ailleurs, le brouillage dans la culture entre le savant d'un côté et puis le populaire de l'autre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cette évolution est une limite ?
Le point central et la différence qu'il y a eu entre Malraux et Lang, c'est que Lang, finalement, a élargi la définition de la culture telle qu'elle était pensée par le ministère de la Culture. Donc, Jack Lang s'est intéressé aux cultures populaires, il s'est intéressé à la BD, à la mode, même au marché de l'art. Il s'est intéressé aussi aux pratiques amateurs, c'est-à-dire que quand il fait la fête de la musique, ce n'est plus seulement les grands artistes et les grands instrumentistes qui ont le droit de citer, mais aussi tous ceux qui jouent d'un instrument dans la vie quotidienne. Donc effectivement, c'est cette notion, enfin c'est cette différence là qui les différencie.
C'est bien compris. Merci Victorien Bornéa, conseiller politique, donc je le rappelle, en collectivité territoriale et auteur donc de l'exclusion culturelle manifeste pour une riposte populaire, donc qui sortira demain aux éditions du Faubourg. Et merci également à Loïs Guérin pour la préparation. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi marqué par le retour des éclaircies à l'ouest. Au nord, en revanche, le ciel restera le plus souvent couvert. Enfin, les précipitations devraient se renforcer au sud. Quant aux températures, elles seront comprises entre 2 et 12 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nina Malray. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Olivier Vogel pour le prochain journal de la rédaction.